Antonio Arnie.
Ja,
France Inter, le 18-20, Fabienne Synthès.
Un jour dans le monde, c'est un jour en Chine ce soir.
Le peuple n'est pas coupable, la révolution est justifiée. Le peuple n'est pas coupable, la révolution est justifiée.
Je vais vous expliquer dans un instant ce qu'il y a derrière ce slogan lancinant, carrément effrayant même, j'ai envie de dire. Nous sommes pendant la révolution culturelle en Chine, dans l'histoire de Xi Jinping, ça a vraiment du sens. Bonsoir Dominique André.
Bonsoir Fabienne.
On est heureux de vous avoir avec nous. Dominique, vous êtes grand reporter à la rédaction internationale de France Inter. Vous signez un podcast qui sort ce mardi, 9 épisodes, travail très à longueur, pour raconter l'histoire de cet homme, Xi Jinping, derrière le président qu'il est, l'histoire de son ascension fulgurante, d'une ambition qui est très claire dès le début. On va voir comment elle se manifeste et puis surtout comment il réécrit à la fois l'histoire de son pays mais aussi la sienne. En fait, ce Xi Jinping, et c'est pour ça que je voulais commencer sitôt et au début. D'abord, le podcast s'appelle Le Prince Rouge. Vous nous expliquez, Dominique, ce que ça veut dire, le Prince Rouge?
Alors, être Prince Rouge en Chine, c'est extrêmement prestigieux parce que ça veut dire que vous êtes le fils de l'un des fondateurs de la République populaire de Chine. Donc Xi Jinping est le fils de Xi Zhongxun, si c'est le nom de famille, qui était un compagnon de route de Mao Tse-tung, qui a participé à la longue marche, et qui a participé à cette guerre civile qui a amené les communistes au pouvoir en 1949.
Et donc il est né en 53, Xi Jinping, effectivement, révolution en 49. Mais donc ce que ça veut dire, et il faut le rappeler, c'est que tous ses fils et filles de hauts dignitaires sont élevés dans la soie, et sont élevés à part, en fait, complètement à part.
Oui, parce qu'en fait, ces princes rouges, ils sont assez nombreux en Chine. Ils forment vraiment une caste, l'aristocratie rouge. En fait, Xi Jinping, lui, a été élevé, comme pas mal de princes rouges, à Zhongnanrai, qui est le quartier gouvernemental attenant à la cité interdite des empereurs de Chine. Et donc, derrière les murs hermétiques de cette nouvelle cité interdite, ils ont vécu de façon très privilégiée. Ils avaient accès à des distractions, ils avaient accès à une nourriture qui n'était pas celle du peuple. Ils vivaient extrêmement à part et effectivement était très privilégié.
Et comme vous dites, distraction que d'autres n'ont pas. Moi, j'étais très étonnée d'entendre qu'il y avait des balles toutes les semaines, par exemple, en écoutant votre podcast, et que ça m'a paru même tellement étonnant.
Parce que en fait, derrière ces murs qui les protégeaient de la population, oui, il y avait une vie entière puisque cette aristocratie rouge vivait de manière très très autonome. Ils étaient vraiment coupés du peuple, donc Mao Tse-tung avait une piscine, il y avait des balles. Les enfants, comme Xi Jinping, allaient dans des écoles spéciales, notamment lui allait à l'école du 1er août, où ont été éduqués les enfants de l'élite rouge.
Et si j'avais vraiment envie qu'on insiste là-dessus, Dominique, pour démarrer et bien comprendre, c'est parce que quand on est élevé là, et quand on est ce prince rouge-là, ça veut dire qu'on est élevé dans l'idée que nous sommes les successeurs, et qu'après la génération en place, ce sera nous, de toute façon, qui prendrons le pouvoir en Chine. C'est très clair, et y compris quand on est très très jeune dans cet endroit-là.
Oui, parce qu'il faut comprendre que quand on vit effectivement à Zhongnanrai, donc dans ce quartier gouvernemental, finalement, on vit avec le gouvernement chinois de l'époque. Xi Jinping, grâce à son père Xi Zhongxun, a connu Mao Tse-tung, a connu vraiment tous ceux qui ont participé à la fondation de la République populaire de Chine, donc à la Chine communiste. Donc en fait, effectivement, ils sont élevés dans l'idée qu'ils sont les fils d'eux, et que finalement, ils sont les seuls à pouvoir savoir ce qu'est la Chine communiste et comment transmettre les valeurs du Parti communiste. Ils estiment que ce sont les seuls qui puissent effectivement être aux commandes de cette Chine rouge, parce qu'ils en sont finalement les enfants.
Et alors, c'est effectivement dans cet esprit qu'a été élevé Xi Jinping, et puis dans son histoire, il a eu l'occasion déjà de le dire entre les lignes, c'est des choses que l'on connaît en tout cas. Dans son histoire, il y a le grand bond en avant, l'échec du grand bond en avant, et puis le début de la révolution culturelle. Le père de Xi Jinping, et donc lui avec, dans cette immense marée de la révolution culturelle. Et là, il faut dénoncer ses parents, son père, dénoncer sa sœur qui finira par se suicider. C'est ça aussi l'histoire de Xi Jinping, et qu'il faut rappeler, Dominique.
Oui, parce que Xi Jinping, effectivement, a eu, comme vous le disiez, une enfance dorée à Zhongnanrai, mais finalement, cette période dans sa vie n'a pas été si longue que ça. À partir de l'âge de 9 ans, on peut dire que la vie de Xi Jinping commence à basculer.
Parce que le grand bond en avant, c'est 58, et en fait, l'échec du grand bond en avant.
59. Voilà. À partir de 59, en fait, si vous voulez, effectivement, à Zhongnanrai, il y a quand même pas mal de grabuges parce que autour de Mao Tse-tung, il y a une contestation des gens qui lui en veulent de cet échec cuisant du grand bond en avant qui a entraîné, comme on sait, une famine avec peut-être plusieurs dizaines de millions de morts. Les historiens parlent de 40 millions de morts hein, après le, avec, au moment du grand bond en avant. Donc en fait, Xi Jinping, à ce moment-là, étant le fils de Qin Gongsun, se sent lui aussi victime de ce qui va être mis en place par Mao Tse-tung, qui va se séparer d'une partie de ses adjoints, on peut dire de sa cour, qui conteste effectivement l'échec du grand bond en avant. Et Mao Tse-tung, qui se sent un peu en retrait, presque isolé, va essayer de renverser la table, de reprendre la main en engageant cette révolution culturelle qui va marquer vraiment un moment très difficile, une rupture dans l'enfance dorée de Xi Jinping. Sa vie va basculer à partir de la révolution culturelle.
Il sera envoyé, comme beaucoup d'entre lui, à la campagne dans ce qu'on appelle la Terre jaune et il en reparlera bien après, bien plus tard. Vous avez retrouvé qu'on entend dans votre podcast une interview à la télé chinoise qui date de 2004. Quand je dis bien plus tard, il y en a très très peu des extraits de Xi Jinping. C'est quelqu'un qui a été très avare en parole. Il n'est pas encore à la tête de son pays, évidemment, en 2004. Et il parle de ce qu'il a vécu et de ce qu'il a fait à ce moment-là dans cette terre jaune. Écoutez-le.
La première fois qu'on est arrivé, en regardant ces maisons dans des grottes au milieu de la montagne, avec ces lampes à kérosène qui clignotaient, vous savez ce que j'ai dit à mes camarades ? J'ai dit, vous ne trouvez pas qu'on ressemble à des hommes des cavernes ? C'était très inapproprié. Mais c'est dans cet environnement que nous avons vécu pendant 7 ans. Au début, on avait peur de ces villageois qui s'installaient sur nos couchettes. Ensuite, on leur proposait de dormir avec nous. Il y avait 4 ou 5 jeunes qui vivaient dans ma maison avec moi. Le soir, après le dîner, eux et d'autres villageois venaient chez moi les uns après les autres pour m'entendre parler du passé et du présent. Je connaissais beaucoup de choses et ils voulaient que je leur raconte. À quoi ressemble Pékin ? Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis ? Ils étaient très curieux.
Et la raison, Dominique André, pour laquelle j'ai voulu qu'on écoute cet extrait, c'est que c'est là, au fond, c'est à partir de ce moment qu'il forge sa narrative, Xi Jinping, et qu'il fabrique même sa propre histoire pour que cette histoire soit adaptée à l'ambition qui est la sienne.
Alors, tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vous. Ce qui est quand même important, je pense, il faut le souligner, c'est que Xi Jinping à 15 ans, quand il est envoyé à la campagne, à plus de 1000 kilomètres de sa famille. C'est un ado qui part avec un groupe de jeunes citadins, de jeunes instruits de Pékin, et qui se retrouve dans une campagne très pauvre. Il va vivre dans une grotte, puisque c'est le type d'habitat dans cette région. Vite, ouais. Donc en fait, on peut dire quand même que là, il décroche quand même beaucoup. Effectivement, il aurait pu sombrer à ce moment-là, comme ça a été le cas, effectivement, pour sa sœur qui, dit-on, s'est suicidée au moment de la révolution culturelle. Et Xi Jinping va rebondir, et c'est là, dans les terres jaunes du Shanxi, effectivement, qu'il va se forger une personnalité. Et d'ailleurs, on le sent très bien quand on retrace tout son parcours. Xi Jinping est un adolescent quand il part à la campagne sur les terres du Shanxi. Et quand il en ressort 7 ans plus tard, c'est une autre personne.
Et c'est ça,
il est transformé.
Et c'est ça qui est étonnant dans ce personnage quand on le connaît aujourd'hui. Parce que, et c'est d'ailleurs l'un de vos interlocuteurs qui le dit, il aurait dû être dissident, Xi Jinping, après ce qu'il a vécu pendant la révolution culturelle, lui et sa famille. Il aurait dû partir aux États-Unis, avoir une autre vie. Au lieu de ça, il décide de rentrer à l'intérieur d'un système qui lui a fait mal. Il veut rentrer au Parti communiste. Vous racontez qu'il fait 10 demandes d'adhésion, il n'y a que la 10e qui marche. Pourquoi, à votre avis, et qu'est-ce qu'il y a derrière cet homme qui dit « je vais rentrer et je vais vaincre au fond ce système qui m'a fait tant de mal ?»
C'est le sinologue et politologue Jean-Philippe Béja qui nous raconte ça. C'est absolument passionnant, effectivement, cette interview de Jean-Philippe Béja. Xi Jinping, effectivement, à ce moment-là, aurait très bien pu rejeter le Parti communiste, qui finalement, qui est le parti qui a rejeté sa famille et qui lui a fait du mal. Effectivement, Xi Jinping, qu'est-ce qu'il se dit à ce moment-là ? On n'est pas dans sa tête. Mais effectivement, ce serait intéressant qu'un psychologue se penche effectivement sur cette décision. Peut-être que Xi Jinping s'est dit à ce moment-là, pour pouvoir gérer ma vie, pour pouvoir mener ma carrière, pour pouvoir décider de mon destin, est-ce qu'il ne faudrait pas que, à mon tour, et contrairement à mon père, ce soit moi qui prenne les décisions? Et comment prendre des décisions en Chine? Comment être le plus fort? C'est bien en rentrant au Parti communiste et en gravant les marches du Parti communiste, en gravissant les marches du Parti communiste peu à peu, comme il va le faire pendant, vous avez vu, de nombreuses années.
Pendant de nombreuses années, et vous le racontez très bien en étant extrêmement discret, donc on ne fait pas de bruit, on ne dit pas ce qu'on pense. Au moment où la Chine s'ouvre un peu sous Deng Xiaoping, on ne sait pas s'il est contre ou s'il est pour. Au moment de la répression à Tiananmen, là non plus, on ne sait pas s'il est contre ou s'il est court. Comme ça, personne ne peut rien dire sur lui. Il y a ce moment que j'ai voulu retenir aussi et que je trouve vraiment intéressant, c'est un nouvel extrait de votre podcast. Nous sommes aux États-Unis. Sous Barack Obama, il est en visite, il ne dirige pas encore la Chine, mais il vient voir une famille qu'il avait déjà vue dans l'Iowa, puisqu'il avait déjà été une fois aux États-Unis lorsqu'il avait 31 ans. Voici comment se passe la nouvelle rencontre.
Ce sont mes hôtes. Je me souviens que j'avais dormi dans la chambre de votre fils, et je me souviens aussi que vous aviez une adorable fille. Elle m'avait posé beaucoup de questions. As-tu déjà vu des films américains ? Quand je lui ai dit que j'avais vu Meryl Streep dans The Deer Hunter, Voyage au bout de l'enfer, et le film Le Parrain, elle a été très surprise et m'avait répondu « Tu as regardé tellement de films américains. » Je me souviens aussi que vous aviez préparé des petits déjeuners très copieux, tout en nous disant que vous n'aviez pas l'intention de nous faire grossir. Avant notre départ, vous nous avez offert des pop-corns. Tous ces souvenirs me reviennent. Vous êtes les premiers Américains que j'ai rencontrés. Donc mes premières impressions de l'Amérique, c'est à vous que je les dois. Alors pour moi, vous êtes l'Amérique. »
Très très rapidement, Dominique André, parce que je veux rien dévoiler non plus trop profondément de ce que vous nous racontez pendant 9 épisodes, mais enfin, moi je suis tombée de ma chaise, j'ai quand même appris qu'il avait une fille à Harvard, Xi Jinping, qui était protégée à la fois par les services chinois et les services américains, ce qui est quand même un comble.
Qu'il a été, parce qu'elle est rentrée à Pékin, mais effectivement, elle est étudiante aux États-Unis. Alors moi, ce que j'ai aussi découvert en Chine, c'est que les enfants de cette élite rouge, les enfants finalement des princes rouges, vont souvent faire leurs études aux États-Unis. Les dirigeants chinois sont fascinés par les États-Unis, tout en les rejetant.
La montée de Xi Jinping, ce qu'il est devenu après, comment il accède au pouvoir et ce qui se passe derrière, tout ça en 9 épisodes disponibles à partir de maintenant. Dominique, il y a deux choses que je voudrais dire. D'abord, il y a une visite d'État du président chinois, ça commence lundi prochain, lundi, mardi, ici en France. Et puis, dans votre travail, il y a aussi un co-auteur, il s'appelle Romain Weber et on le salue. Il y a un rédacteur en chef, il s'appelle Sébastien Eugénie, il y a un réalisateur qui est derrière la vitre, on lui fait coucou comme ça avec la main. Il s'appelle Fabrice Laigle. Il y a une assistante à la réalisation qui s'appelle Karen Day. Il y a deux réalisateurs additionnels qui ont participé aux épisodes qui s'appellent Charles de Silla et Fanny Boyon. Et on les remercie, on vous remercie aussi chaleureusement. Dominique André, merci beaucoup.